Notre vie est marquée par les rythmes incessants de la musique. Dans l'une de ses chansons, Alain Chamfort démontre que notre existentialisme se veut comme le micro-sillon d'un vinyle. D'un côté, une face A avec nos chansons préférées, et de l'autre, une face B avec des chansons qui s'accrochent à notre vie, nos émotions. C'est peut-être pour ça que j'aime Juliette Armanet, mais de montagne. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez VTC. Notre invité s'appelle Marceau, il est auteur, compositeur et interprète. Dans cette interview, nous parlerons de la musique, son métier, sa passion, mais surtout de comment et pourquoi l'amour fait-il partie intégrante de l'ADN de la musique. Bonjour Marceau.
Bonjour.
Quel est votre moyen de transport préféré pour vous déplacer à Paris en Île-de-France ?
Alors, préféré, moi j'avoue beaucoup aimer le tramway parce qu'on voit dehors et c'est toujours très agréable. Après, voilà, je me déplace énormément en métro surtout. Voilà.
Nos précédents invités, Carole Fabre et Aïkel Benyacoub, qui sont dans l'univers manga, ont une question pour vous.
La question serait, est-ce que le manga...
Est-ce qu'il peut être utilisé comme support par les professeurs dans l'école, vu que ça s'est généralisé beaucoup?
Ouais, pour illustrer des propos et les utiliser comme sujet principal.
Bon, vous n'êtes pas professeur, mais on peut reformuler la question. Est-ce que le manga est-il une inspiration dans vos créations?
Alors, moi, je dois avouer ne pas lire de manga, mais je suis très admiratif devant le travail des animés, des mangas, du dessin. Ça reste un art... très, très impressionnant et donc ça peut être effectivement une inspiration vraiment. Il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique en rapport avec le manga. Moi pour l'instant non, mais peut-être que dans le futur oui, ça le deviendra. En tout cas, j'aime beaucoup Détective Conan. Voilà, je trouve ça très sympa parce que ça mélange l'animé tout en gardant un côté un peu policier, donc c'est cool. Après, je connais quelques noms, mais je regarde pas énormément.
Marceau, tu es auteur, compositeur, interprète. C'est quoi ta définition du métier de musicien?
C'est assez vaste. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui on peut très facilement se revendiquer auteur-compositeur, même en étant dans l'ombre pour d'autres personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui ça commence très 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 tôt et très très d'un tout petit truc. C'est comme un peu un effet papillon où on écrit un petit texte, un petit poème, on pianote quelques trucs sur un instrument, ou on trouve une mélodie, on s'enregistre. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir vraiment chanter comme il faut, parfaitement, pour se revendiquer interprète, tant qu'on arrive à faire passer une émotion. Donc, tant qu'on est créatif et qu'on s'aventure un peu dans le domaine de la musique, je pense qu'on peut facilement dire qu'on est auteur, compositeur, interprète. Après, voilà, il y a aussi le statut d'en vivre et d'en avoir un métier, voilà. Mais ça part de pas grand-chose. Et donc je sais pas s'il y a une définition pure et dure, mais en tout cas, voilà, c'est ce que ça m'évoque.
Quelle serait ta description personnelle ? Qui se retrouverait sur Spotify?
Peut-être une personne qui aime écrire, qui aime soit écrire, soit chanter, soit composer, soit les trois, qui aime se produire sur scène, qui a une fibre un peu, une connexion avec la musique, je dirais.
C'est quoi ton premier souvenir de musique?
Mon tout premier souvenir, je pense que celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est, je devais avoir 3-4 ans, mes parents avaient acheté le DVD d'un des concerts de M. Il s'appelait En tête à tête à Bercy. Et j'en étais fou. Je le jouais en boucle à la télé. Je le connais par cœur, ce live. Vraiment, quand j'ai vu M mettre en transe une foule juste avec une guitare tout seul, je me suis dit, mais c'est absolument ce que je veux faire plus tard. Et donc, ma mère, elle m'avait cousu des copies de ses vestes. Mon père, il m'avait dessiné dans des cartons et découpé des guitares et tout. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Et c'est vraiment, je pense, mon premier souvenir musical. Ouais.
Est-ce qu'il fait partie d'un de tes modèles ?
Ah, c'est clair. Il est clairement une inspiration, une influence très, très importante dans ma carrière. Ça, c'est clair.
Comment tu trouves l'inspiration dans ta musique ?
Ça vient de ma propre vie. Honnêtement, mes chansons, c'est un peu comme une thérapie. Les textes que j'écris, je pense que je chante des choses que j'oserais pas me dire à moi-même un peu. Et donc c'est vraiment juste mon quotidien, ce que je ressens. Moi j'ai envie de dire que quelqu'un qui fait de la musique, il a envie de faire passer des émotions dans ce qu'il fait. Donc c'est vrai que le but est dès que je ressens une émotion de quelque chose, j'ai envie de parfois de le mettre en musique. Et donc c'est vraiment la vie de tous les jours.
C'est quoi le plus dur dans la création musicale?
Le plus dur serait peut-être pendant très longtemps j'ai beaucoup lutté pour arriver à placer les mots sur la musique, à faire matcher les deux ensemble. C'est vrai que ça a été assez compliqué. de trouver des mots aussi à la fois en anglais ou en français qui sonnaient juste par rapport à ce que moi j'avais envie d'exprimer et qui sonnaient pas trop, je sais pas, cringe ou too much, ou enfin qui me plaisaient en fait. Et musicalement, aujourd'hui peut-être que la composition reste assez facile parce que quand on se met à un instrument, on peut composer un morceau de manière assez acoustique, enfin simple, mais c'est vrai que après, derrière, se mettre à la production tout seul, à faire des instrumentaux avec beaucoup d'instruments ou en tout cas avec beaucoup de couches, c'est peut-être un peu compliqué. Aujourd'hui encore, j'apprends beaucoup de choses là-dessus. Et de toute façon, je pense que l'apprentissage de ça est infini, ça ne s'arrêtera jamais un jour. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, peut-être le plus dur, arriver à s'y mettre, arriver à trouver les mots justes et arriver à aimer la musique qu'on fait aussi.
C'est quoi le premier instrument que tu as réussi à jouer?
Alors, ça va paraître bizarre, mais j'ai fait du solfège pendant très longtemps, pendant 12 ans, et avant les 12 ans de solfège, on avait tout ce qu'on appelle l'éveil musical. Et c'est 2 années où on est tout petit et on nous met face à plein d'instruments pour savoir un peu, qu'on découvre un peu les instruments et qu'on découvre un peu l'instrument qui nous intéresse le plus. Et en fait, on nous faisait prendre des cours et moi j'ai pris un cours de hautbois. Ouais, de hautbois. Et en fait, quand j'ai pris le cours de hautbois, ma prof m'avait dit, mais c'est rare que dès le premier cours, tu arrives à faire telle note, c'est une note, parce que le hautbois, il faut placer beaucoup de doigts, c'est un peu comme une clarinette. Donc, t'es arrivé à atteindre une note assez un peu lointaine avec mon petit doigt. Elle m'a dit, mais c'est la première fois qu'au premier cours, j'ai un élève qui arrive à faire ça. Et ça m'a motivé à garder le hautbois. Donc, du coup, j'ai fait du hautbois pendant 5 ans. Les 2-3 premières années ont été agréables et j'apprenais beaucoup sur cet instrument. Et aujourd'hui, je reconnais que c'est un très bel instrument. Les 2 dernières années ont été assez catastrophiques parce que je m'y tenais plus du tout. C'est un instrument qui est assez dur au niveau des lèvres, de la hanche, au niveau de l'apprentissage. Enfin, c'est vraiment un instrument qui est assez dur à apprendre. Et bien qu'il soit très joli, voilà, j'ai très vite laissé tomber et donc j'en ai pâti et donc j'ai arrêté au bout d'un moment, quoi. Mais très jeune, je devais avoir 12 ans quand j'ai arrêté, quelque chose comme ça.
D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu montres comment tu produis tes musiques, donc tu fais des riffs de guitare. Moi, je crois que c'est une des stories que j'avais vues récemment. Mais les autres instruments que tu as appris, tu les as appris de manière autodidacte ou toujours au conservatoire ou...
Alors après le hautbois, j'ai fait une année sans instrument et puis derrière, j'ai fait effectivement 5 ans de guitare. Donc j'ai pris des cours de guitare au début avec un prof. Donc j'ai joué beaucoup de morceaux classiques et puis très vite, je lui ai dit « mais moi, je veux m'accompagner à la guitare parce que le but, c'est d'écrire des chansons ». Donc il m'a bien aidé là-dessus. Et puis je joue un tout petit peu de piano, je pianote quelques trucs, de la composition, voilà, assez basique. Ça par contre j'ai appris en autodidacte. Je suis loin de pouvoir jouer des morceaux très, très expérimentaux, enfin très importants, mais voilà, je joue un petit peu de piano.
Donc aujourd'hui la guitare c'est vraiment ton instrument phare pour composer?
Oui, voilà, par contre effectivement la guitare c'est mon instrument principal. Ouais.
Et si on écoutait ton EP?
Ciao mon amour.
C'est parti.
Peut-être un peu trop tôt qu'on en avait fait le tour. Tiens mon amour, comme l'air chaud et lourd du mois d'août sont derrière nous nos plus beaux jours. Tiens mon amour, dis-moi c'est quand ton tour, tu vas jusqu'où? Tiens mon amour, pourrais-tu me rendre l'amour que j'ai jeté à tes pieds aux alentours? Dans ta langue, comment dis-tu toujours? Où vais-je perdre tous les jours? Dans ton monde, je ne sais quel jour nous rêver. Fallait-il que je prenne des cours? Ciao, mon amour, on ne fera plus l'amour. Quand toi tu pars au quart de tour, moi je bouge plus, je suis à la bourre. Ciao mon amour, un quart de tour à gauche, trois quarts de tour à droite. Ton putain de cœur c'est comme un vieux coffre, fermé à double tour. Ciao mon amour, silence moteur ça tourne. Reste à savoir si c'est le rôle ou juste pour. Ta langue d'amour, ta langue de signe, c'est comme des flèches à la pointe brûlante, tirées en plein cœur. Tes larmes de crocodile, ta peau vendue sans tuer l'ours, aussi suspecte qu'une vie en pauvre. Ciao mon amour, on ne fera plus l'amour.
un regard de tour. Moi je bouge plus, je suis à la boue. Peut-être que t'avais raison, y'avait plus de raison. Continuer à faire les sauts, continuer à faire faux. Je les implore, les déplore. On ne sait pas ce qu'on a fait pour. C'est l'armure qui est touchée chaque jour. Et pourtant tout le mal du monde donne l'impression d'être là dans notre cou. Ciao, mon amour. On ne fera plus l'amour. C'était les 7 jours. C'est pour mieux te faire l'amour. Quand toi tu pars, on garde tour. Moi je bouge plus. Je suis à la boue. Peut-être que t'avais raison. Y'avait plus de raison. Continuer à faire les sauts. Continuer à faire faux.
Ciao mon amour. Marceau, vous êtes bien sur Radio Campus Paris à écouter VTC avec Marceau, auteur, compositeur et interprète. Vous pouvez écouter son nouvel EP sur toutes les plateformes de streaming musical en ligne tout en déclamant « Ciao mon amour » à votre moitié. Ça te fait quoi de voir ton projet aboutir ?
C'est assez... c'est vraiment une euphorie un peu parce que ça, moi, c'est un morceau en plus que j'ai écrit et composé en octobre-novembre 2022. Donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma hotte. Et c'est vrai que... Ah bon, après, il y avait les études, il y avait plein de choses à côté, mais je prends du temps souvent à arriver à un résultat qui me plaît, en tout cas pour mes premiers morceaux. Et donc c'est un morceau sur lequel je travaille depuis un moment. Et quand t'arrives à un résultat final, t'es fier de toi. Et si le résultat te plaît en plus énormément, c'est là que tu te rends compte que tu te dis « I made it » parce que tu vas écouter le morceau dans le métro, tu vas être là, c'est une démo qui marche bien et tout. Et quand t'arrives à un résultat final, au final, c'est vraiment une euphorie parce que t'es là « Ok, j'ai un morceau de prêt, je peux le sortir. » Donc ça fait kiffer, ouais.
T'évoquais que t'allais faire le clip dans les jours à venir. Est-ce que là, il y a encore une euphorie encore plus ou est-ce que t'as déjà pensé à comment...
Non, c'est énorme aussi. C'est vrai qu'en tant qu'artiste indépendant qui émerge vraiment tout nouveau, on n'a pas forcément les médias avec nous. C'est assez compliqué de se faire une place. Et donc, tout ce qui va être visuel, photo, clip, c'est un peu les seules choses sur lesquelles on peut se reposer, je pense, au début. Et donc ouais, ce clip, ça fait depuis 2 mois que je le prépare, mais du coup ouais, non, j'ai très très hâte de le tourner, de le sortir. C'est pareil, ça, c'est comme ces 2 mois de travail, tu travailles avec une réalisatrice sur tout un mood board, d'ailleurs Marion Georgia, super réalisatrice avec qui je travaille depuis 2 mois, et donc j'ai super hâte voilà, de le sortir. Tout un projet qui va durer toute une journée avec des figurants, avec plein de tenues, plein de trucs, donc ça va être super classe et j'ai hâte de le sortir aussi parce que c'est ce qui va permettre de faire durer la chanson un peu plus longtemps dans le temps aussi.
J'ai l'impression qu'en plus du travail sonore, du travail musical, tu dois derrière le clip réfléchir à un travail visuel. T'en penses quoi de ça ?
Si je me base sur ma première expérience pour mon premier clip, c'est vrai que la première expérience a été très particulière parce que c'est une équipe, la Team Ofix, qui est venue me voir, qui m'a dit « on a envie de te faire un clip parce qu'on adore ce morceau », parce que j'avais fait déjà une live session avec eux avant. Et donc c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'idées. J'ai travaillé avec un réalisateur, Johan Mortureux, qui avait déjà pas mal d'idées pour le morceau qui me plaisait beaucoup, et donc c'est vrai qu'ils avaient déjà beaucoup d'autonomie. Là, je travaille avec une réalisatrice qui a pas forcément toute une équipe autour, donc c'est vrai que, étant totalement indépendant, c'est moi qui me suis occupé voilà, des figurants, des accessoires, des tenues, de louer le studio, de tout ça. Donc c'est vrai que c'est une expérience différente. Après, de toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de dissocier le visuel de la musique, on se base énormément dessus. Donc quand on a l'occasion de pouvoir faire un visuel un peu travaillé ou qui nous plaît et qui se rapproche de la chanson, c'est toujours cool et ça permet vraiment de donner un visuel à la chanson, même si bon, on adore laisser aussi le public s'inventer des images quand ils écoutent nos chansons. Ça permet aussi d'exprimer notre propre vision de notre propre chanson et donc ça reste quand même important, même si j'aimerais que la musique soit un peu moins collé au visuel. J'aimerais qu'elle vive peut-être un peu plus seule. Puis c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, je suis pas très fan de la chanson, mais j'adore les photos, j'adore le clip, donc ça va me faire aimer la chanson. » Je trouve ça dommage parfois qu'on se base trop là-dessus et qu'on se dise pas « Ah, la chanson, bah toute seule, elle tient pas debout, du coup je la mets de côté. » Ou alors « Ah, la chanson, elle est géniale, qu'il y ait des images ou pas, elle me plaît et je l'écoute. » Tu vois. C'est vrai que j'aime aussi ce côté plus spontané et plus dans le ressenti.
Après, c'est drôle ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué à l'audiovisuel, donc images et son, mais Aujourd'hui, on vit un peu dans une époque où on est totalement englué dans nos écouteurs à écouter de la musique. Donc, est-ce qu'on peut dire que nos plateformes de streaming nous font re-préférer la musique dans un point sonore et non visuel?
Bah, après, c'est aussi le bon et le mauvais côté des plateformes de streaming, c'est qu'elles nous aident à consommer plus de musique et donc à s'arrêter que sur la musique. Et d'un autre côté, on consomme beaucoup de musique et donc parfois, effectivement, ça devient compliqué de se démarquer parce que il y a beaucoup de chansons dans le même style. Donc c'est très aléatoire, je pense. Il y a du bon et du mauvais dans les plateformes de streaming. Et effectivement, peut-être qu'elles nous font nous concentrer plus sur la musique, même si il y aura toujours une pochette, une image, un Canva en fond de Spotify, par exemple. Donc c'est vrai que ça reste important quand même.
D'ailleurs, en parlant de style, c'est vrai que Ciao Mon Amour, ça parle d'amour. Sur un petit folk pop, un peu très 80, mais j'aime bien. Forcément, pour ça, Daft Punk, je sais pas, le rythme très speed. Et c'est vrai que l'amour, que ça soit le genre, le rythme ou le style, on en a tout le temps. Qu'est-ce que toi, ça te fait penser? Est-ce qu'il te fallait que tu parles d'amour, histoire de marquer, laisser une trace en disant « j'ai chanté l'amour » Ou est-ce que, en tant que musicien, on est obligé de chanter l'amour ou pas forcément? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je sais pas si on est obligé de chanter l'amour. Après, sur Terre, on a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que la vie, c'est toujours à propos de l'amour? Et c'est vrai qu'il n'y a pas que l'amour de relation entre deux personnes qui se connaissent pas forcément. Il y a aussi l'amour amical, l'amour familial. Et donc, je pense que l'amour, oui, fait partie de nos vies constamment, en fait, tous les jours. Et même si on se dit pas que je suis un artiste qui va chanter sur l'amour, on va toujours l'amener dans la discussion, dans le texte. Ça reste un sujet, voilà, qui est important, qui fait partie de nos vies. Et je pense que 70% des artistes parlent de leur vie dans leurs chansons. Donc, c'est sûr que, voilà, non, l'amour est important. On le traite tous, par contre, de manière différente. Voilà. C'est aussi ça qui fait, je pense, la particularité de chacun.
Tu penses qu'il fallait que tu le chantes de manière à laisser une trace en disant que j'ai chanté l'amour ou pas?
Ouais, je sais que je le rechanterai, l'amour, dans le futur, ça c'est sûr. Étant donné, je sais pas si je me suis dit il faut que je chante l'amour, je me suis plus dit égoïstement je vais chanter sur moi. Mais comme plein d'artistes aujourd'hui, j'aime beaucoup prendre des situations personnelles et les généraliser, les rendre un peu universelles, comme une sorte de thérapie universelle. Et étant donné que l'amour fait partie de ma vie, voilà, c'était évident pour moi de effectivement chanter sur l'amour.
Comment tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, oh là là, j'aimerais beaucoup vivre de mon métier, j'aimerais beaucoup être sur scène, avoir sorti déjà 1, 2, pourquoi pas 3 albums, tout dépend de ma productivité. Mais voilà, c'est de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir une vie, voilà, active dans l'industrie musicale.
Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la musique?
De pas trop se prendre la tête au début, de pas trop réfléchir au futur, de pas trop... de garder un peu la tête sur les épaules et de... ça va être cliché, mais de bosser. C'est vrai que ça m'a pris longtemps avant de me mettre à bosser. J'attendais peut-être un peu trop que la grâce me tombe dessus. Et puis, une fois que tu t'y mets, tu bosses, tu fais tes chansons et elles sortent et tu vois des résultats et ça avance et donc ça fait plaisir. Donc tu comprends qu'il faut bosser. Mais par contre, voilà, quelqu'un qui se lance dans la musique, il faut se dire que ça va te prendre 5 à 6 ans avant de pouvoir peut-être potentiellement en vivre. Qu'il faut pas voir les autres artistes comme de la compétition parce que sinon tu vas tomber dans une dépression infernale. C'est vraiment de faire au début de la musique un peu pour soi et de pas hésiter à la partager et de pas avoir peur d'être un peu trop opportuniste ou de pas avoir peur de se dévoiler, mais de pas, voilà, pas du tout trop se prendre la tête et de penser au futur et prendre le vertige parce que ça fait très peur.
Marceau, quelle serait la question que tu poserais à notre prochaine ou nos prochains invités?
Quelle place à la musique dans votre vie et peut-être plutôt dans votre vie quotidienne? Si c'est un professeur, est-ce que la musique va être évoquée en cours, peu importe la matière? Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup quand des professeurs au lycée ou au collège évoquaient des musiques en rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Bon, en maths, c'est compliqué, mais en français, en histoire, c'est toujours cool d'avoir des repères parfois musicaux parce que c'est vraiment ce qui va lier, je pense, le professeur aux élèves. Les élèves, ils adorent la musique, ils en écoutent un peu tout le temps, et donc c'est vrai que ça peut être toujours un sujet intéressant à aborder. Donc c'est vraiment quelle est la place de la musique, soit dans votre vie quotidienne, soit dans votre cours, si vous êtes professeur, ou en tout cas voilà, dans votre vie quotidienne, je trouve ça toujours intéressant. Comment tu vois la musique? Si c'est un art ou si c'est vraiment juste un divertissement, voilà.
Merci beaucoup Marceau. Où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Ouais, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, de partout, et sur les plateformes de streaming.
Parfait. Ce serait quoi ton featuring de la muerte qui tue?
C'est assez compliqué, moi il y a les artistes que j'adore, c'est des artistes, je sais pas si j'ai envie de collaborer avec elles parce que j'aurais toujours cette peur de ruiner un peu le mythe que j'ai d'elles. Mais d'un autre côté, j'adorerais bosser avec Lana Del Rey, avec Lorde, même avec Taylor Swift, ce serait quand même canon. Donc franchement, beaucoup de gens. Donc je vais rester sur Lana Del Rey en tant que réponse propre.
Bon, ça sera pas moi, hein, j'ai pas une voix de rousse.
Merci beaucoup Marceau.
Merci beaucoup d'avoir écouté VTC. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet, un nouvel invité. À la technique, il y avait Jean et Kélian pour que cette émission soit diffusée sur les ondes de Radio Campus Paris. Philippe à l'antenne. Je vous laisse entre de bonnes mains sur Radio Campus Paris. Passez une excellente soirée et je vous dis, prenez soin de vous.